Alfred de Musset, Mimi Pinson, Profil de grisette, 1845. Mimi Pinson, elle a les yeux et les mains prestes, les carabins matin et soir, use les manches de leur veste, lors de rirette à son comptoir. Parmi les étudiants qui suivaient l'an passé le cours de l'école de médecine, se trouvait un jeune homme nommé Eugène Aubert. C'était un garçon de bonne famille qui avait à peu près 19 ans. Ses parents vivaient en province et lui faisaient une pension modeste, mais qui lui suffisait. Il menait une vie tranquille et passait pour avoir un caractère fort doux. Ses camarades l'aimaient, en toutes circonstances, on le trouvait bon et serviable, la main généreuse et le cœur ouvert. Le seul défaut qu'on lui reprochait était un singulier penchant à la rêverie et à la solitude, et une réserve excessive dans son langage et ses moindres actions, si bien qu'on l'avait surnommé la petite fille, surnom du reste dont il riait lui-même et auquel ses amis n'attachaient aucune idée qui pût l'offenser, le sachant aussi brave qu'un autre au besoin. Mais il était vrai que sa conduite justifiait un peu ce sobriquet, surtout par la façon dont elle contrastait avec les mœurs de ses compagnons. Tant qu'il n'était question que de travail, il était le premier à l'œuvre. Mais s'il s'agissait d'une partie de plaisir, d'un dîner au moulin de beurre ou d'une contredanse à la chaumière, la petite fille secouait la tête et regagnait sa chambre garnie. Chose presque monstrueuse parmi les étudiants, non seulement Eugène n'avait pas de maîtresse, quoique son âge et sa figure eussent pu lui valoir du succès, mais on n'avait jamais vu faire le galant au comptoir d'une grisette, usage immémorial au quartier latin. Les beautés qui peuplent la montagne Sainte-Geneviève et se partagent les amours des écoles lui inspiraient une sorte de répugnance qui allait jusqu'à l'aversion. Il les regardait comme une espèce à part, dangereuse, ingrate et dépravée, née pour laisser partout le mal et le malheur en échange de quelques plaisirs. « Gardez-vous de ces femmes-là, » disait-il. « Ce sont des poupées de feu rouge. » Et il trouvait, malheureusement, que trop d'exemples pour justifier la haine qu'elle lui inspirait. Les querelles, les désordres, quelquefois même la ruine qu'elles entraînent, ces liaisons passagères, dont les dehors ressemblent au bonheur, n'étaient que trop faciles à citer l'année dernière comme aujourd'hui, et probablement comme l'année prochaine. Il va sans dire que les amis d'Eugène le raillaient continuellement sur sa morale et sur ses scrupules. « Que prétends-tu ?» lui demandait souvent un de ses camarades nommé Marcel, qui faisait profession d'être un bon vivant. « Que pouvait une faute ou un accident arriver une fois par hasard ?»« Bien qu'il faut s'abstenir, » répondait Eugène, « de peur que cela n'arrive une seconde fois. » « Faux raisonnement !» répliquait Marcel, « argument de capucin de Cartes qui tombe si le compagnon trébuche. » « Mais de quoi veux-tu t'inquiéter ? Tel d'entre nous a perdu au jeu. Est-ce une raison pour se faire moine ? L'un n'a plus le sou, l'autre boit de l'eau fraîche. Est-ce qu'Élise en perd l'appétit ? À qui la faute si le voisin porte sa montre au Mont-de-Piété pour aller se casser un bras à Montmorency ? La voisine n'en est pas manchotte. Tu te bats pour Rosalie, on te donne un coup d'épée. » Elle te tourne le dos, c'est tout simple. En a-t-elle moins fine taille ? Ce sont de ces petits inconvénients dont l'existence est parsemée, et ils sont plus rares que tu ne penses. Regarde un dimanche quand il fait beau, que de bonnes paires d'amis dans les cafés, les promenades et les guinguettes. Considère-moi ces gros omnibus bien rebondis, bien bourrés de grisettes qui vont au Ranelagh ou à Belleville. Compte ce qui sort un jour de fête seulement du quartier Saint-Jacques, les bataillons de Maudis, les armées de Lingère, les nuées de marchands de tabac. Tout cela s'amuse, tout cela a ses amours, tout cela va s'abattre autour de Paris, sous les tonnelles de campagne, comme des volets de criquet. S'il pleut, bah cela va au mélodrame, manger des oranges et pleurer. Car cela mange beaucoup, c'est vrai, et pleure aussi très volontiers. C'est ce qui prouve un bon caractère. Mais quel mal font ces pauvres filles qui ont cousu, bâti, ourlé, piqué, ravaudé toute la semaine, en prêchant d'exemple le dimanche l'oubli des mots et l'amour du prochain. Et que peut faire de mieux un honnête homme qui, de son côté, vient de passer 8 jours à disséquer des choses peu agréables, que de se débarbouiller la vue en regardant un visage frais, une jambe ronde et la belle nature. « Au sépulcre blanchi !» disait Eugène. « Non, je dis et maintiens, continuait Marcel, qu'on peut et doit faire l'éloge des grisettes, et qu'un usage modéré en est bon. Premièrement, elles sont vertueuses, car elles passent la journée à confectionner les vêtements les plus indispensables à la pudeur et à la modestie. En second lieu, elles sont honnêtes, car il n'y a pas de maîtresse lingère ou autre qui ne recommande à ses filles de boutique de parler au monde poliment. Troisièmement, elles sont très soigneuses et très propres, attendu qu'elles ont sans cesse entre les mains du linge et des étoffes qu'il ne faut pas qu'elles gâtent, sous peine d'être moins bien payées. Quatrièmement, elles sont sincères parce qu'elles boivent du ratafia. En cinquième lieu, elles sont économes et frugales parce qu'elles ont beaucoup de peine à gagner 30 sous. Et s'il se trouve des occasions où elles se montrent gourmandes et dépensières, ce n'est jamais avec leur propre denier. Sixièmement, elles sont très gaies parce que le travail qui les occupe est en général ennuyeux à mourir et qu'elles frétillent comme le poisson dans l'eau dès que l'ouvrage est terminé. Un autre avantage qu'on rencontre en elles, c'est qu'elles ne sont point gênantes vu qu'elles passent leur vie clouées sur une chaise dont elles ne peuvent pas bouger et que par conséquent il leur est impossible de courir après leurs amants comme les dames de bonne compagnie. En outre, elles ne sont pas bavardes parce qu'elles sont obligées de compter leurs points. Elles ne dépensent pas grand-chose pour leurs chaussures parce qu'elles marchent peu, ni pour leurs toilettes parce qu'il est rare qu'on leur fasse crédit. Si on les accuse d'inconstance, ce n'est pas parce qu'elles lisent de mauvais romans, ni par méchanceté naturelle. Cela tient au grand nombre de personnes différentes qui passent devant leur boutique. D'un autre côté, elles prouvent suffisamment qu'elles sont capables de passions véritables, par la grande quantité d'entre elles qui se jettent journellement dans la Seine ou par la fenêtre ou qui s'asphyxient dans leur domicile. Elles ont, il est vrai, l'inconvénient d'avoir presque toujours faim et soif, précisément à cause de leur grande tempérance. Mais il est notoire qu'elles peuvent se contenter, en guise de repas, d'un verre de bière et d'un cigare. Qualité précieuse qu'on rencontre bien rarement en ménage. Bref, je soutiens qu'elles sont bonnes, aimables, fidèles et désintéressées, et que c'est une chose regrettable lorsqu'elles finissent à l'hôpital. Lorsque Marcel parlait ainsi, c'était la plupart du temps au café, quand il s'était un peu échauffé la tête. Il remplissait alors le verre de son ami et voulait le faire boire à la santé de Mademoiselle Pinson, ouvrière en linge, qui était leur voisine. Mais Eugène prenait son chapeau, et tandis que Marcel continuait à pérorer devant ses camarades, il s'esquivait doucement. Chapitre 2. Mademoiselle Pinson n'était pas précisément ce qu'on appelle une jolie femme. Il y a beaucoup de différence entre une jolie femme et une jolie grisette. Si une jolie femme, reconnue pour telle, et ainsi nommée en langue parisienne, s'avisait de mettre un petit bonnet, une robe de guingamp et un tablier de soie, elle serait tenue, il est vrai, de paraître une jolie grisette. Mais si une grisette s'affuble d'un chapeau, d'un camail de velours et d'une robe de palmyre, elle n'est nullement forcée d'être une jolie femme. Bien au contraire, il est probable qu'elle aura l'air d'un porte-manteau, et en l'ayant, elle sera dans son droit. La différence consiste donc dans les conditions où vivent ces deux êtres, et principalement dans ce morceau de carton roulé, recouvert d'étoffe et appelé chapeau, que les femmes ont jugé à propos de s'appliquer de chaque côté de la tête, à peu près comme les œillères des chevaux. Il faut remarquer cependant que les œillères empêchent les chevaux de regarder de côté et d'autre, et que le morceau de carton n'empêche rien du tout. Quoi qu'il en soit, un petit bonnet autorise un nez retroussé, qui à son tour veut une bouche bien fendue, à laquelle il faut de belles dents et un visage rond pour quatre. Un visage rond demande des yeux brillants. Le mieux est qu'il soit le plus noir possible et les sourcils à l'avenant. Les cheveux sont ad libitum, attendu que les yeux noirs s'arrangent de tout. Un tel ensemble, comme on le voit, est loin de la beauté proprement dite. C'est ce qu'on appelle une figure chiffonnée, figure classique de grisette, qui serait peut-être laide sous le morceau de sans le morceau de carton, mais que le bonheur rend parfois charmante et plus jolie que la beauté. Ainsi était Mademoiselle Pinson. Marcel s'était mis dans la tête que Gênes devait faire la cour à cette demoiselle. Pourquoi ? Je n'en sais rien, si ce n'est qu'il était lui-même l'adorateur de Mademoiselle Zélia, ami intime de Mademoiselle Pinson. Il lui semblait naturel et commode d'arranger ainsi les choses à son goût et de faire amicalement l'amour. De pareils calculs ne sont pas rares et réussissent assez souvent. L'occasion, depuis que le monde existe, étant de toutes les tentations la plus forte. Qui peut dire ce qu'on fait naître d'événements heureux ou malheureux, d'amour, de querelle, de joie ou de désespoir, de portes voisines, un escalier secret, un corridor, un carreau cassé. Certains caractères, pourtant, se refusent à ces jeux du hasard. Ils veulent conquérir leur jouissance, non les gagner à la loterie, et ne se sentent pas disposés à aimer parce qu'ils se trouvent en diligence à côté d'une jolie femme. Et tel était Eugène, et Marcel le savait. Aussi avait-il formé depuis longtemps un projet assez simple, qu'il croyait merveilleux et surtout infaillible, pour vaincre la résistance de son compagnon. Il avait résolu de donner un souper, et ne trouva rien de mieux que de choisir pour prétexte le jour de sa propre fête. Il fit donc apporter chez lui 2 douzaines de bouteilles de bière, un gros morceau de veau froid avec de la salade, une énorme galette de plomb et une bouteille de vin de champagne. Il invita d'abord 2 étudiants de ses amis, puis il fit savoir à Mademoiselle Zélia qu'il y avait le soir gala à la maison et qu'elle eut à amener Mademoiselle Pinson. Elle lui regarde d'y manquer. Marcel passait à juste titre pour un des talons rouges du quartier latin, de ces gens qu'on ne refuse pas. Et 7 heures du soir venait à peine de sonner que les 2 grisettes frappaient à la porte de l'étudiant, Mademoiselle Zélia en robe courte, en brodequin gris et en bonnette à fleurs, Mademoiselle Pinson, plus modeste, vêtue d'une robe noire qui ne la quittait pas, et qui lui donnait, disait-on, une sorte de petit air espagnol dont elle se montrait fort jalouse. Toutes deux ignoraient, on le pense bien, les secrets desseins de leur hôte. Marcel n'avait pas fait la maladresse d'inviter Eugène d'avance. Il eût été trop sûr d'un refus de sa part. Ce fut seulement lorsque ces demoiselles eurent pris place à table, et après le premier verre vidé, qui demanda la permission de s'absenter quelques instants pour aller chercher un convive et qu'il se dirigea vers la maison qu'habitait Eugène. Il le trouva, comme d'ordinaire, à son travail, seul entouré de ses livres. Après quelques propos insignifiants, il commença à lui faire tout doucement ses reproches accoutumés, qui se fatiguait trop, qu'il avait tort de ne prendre aucune distraction. Puis il lui proposa un tour de promenade. Eugène, un peu las, en effet, ayant étudié toute la journée, accepta, et les deux jeunes gens sortirent ensemble. Et il ne fut pas difficile à Marcel, après quelques tours d'aller au Luxembourg, d'obliger son ami à entrer chez lui. Les deux grisettes, restées seules et ennuyées probablement d'attendre, avaient débuté pour se mettre à l'aise. Elles avaient ôté leurs châles et leurs bonnets et dansaient en chantant une contredanse, non sans faire de temps en temps honneur aux provisions par manière d'essai. Les yeux déjà brillants et le visage animé, elles s'arrêtèrent joyeuses et un peu essoufflées lorsque Jeanne les salua d'un air à la fois timide et surpris. Attendu ses mœurs solitaires, il était à peine connu d'elle. Aussi l'eurent-elles bientôt dévisagé des pieds à la tête avec cette curiosité intrépide qui est le privilège de leur caste. Puis elles reprirent leurs chansons et leurs danses comme si de rien n'était. Le nouveau venu, à demi déconcerté, faisait déjà quelques pas en arrière, songeant peut-être à la retraite, lorsque Marcel, ayant fermé la porte à double tour, jeta bruyamment la clé sur la table. « Personne encore !» s'écria-t-il. « Mais que font donc nos amis ?»« Mais n'importe, le sauvage vous appartient, mademoiselle. Je vous présente le plus vertueux jeune homme de France et de Navarre, qui désire depuis longtemps avoir l'honneur de faire votre connaissance et qui est particulièrement grand admirateur de mademoiselle Pinson. » La contredanse s'arrêta de nouveau. Mademoiselle Pinson fit un léger salut et reprit son bonnet. « Eugène, s'écria Marcel, c'est aujourd'hui ma fête. Ces deux dames ont bien voulu venir la célébrer avec nous. Je t'ai presque amené de force, c'est vrai, mais j'espère que tu resteras de bon gré à notre commune prière. Il est à présent 8 heures à peu près. Nous avons le temps de fumer une pipe en attendant que l'appétit nous vienne. » Parlant ainsi, il jeta un regard significatif à mademoiselle Pinson, qui, le comprenant aussitôt, s'inclina une seconde fois en souriant et dit d'une voix douce à Eugène « Oui, monsieur, nous vous en prions. » En ce moment, les deux étudiants que Marcel avait invités frappèrent à la porte. Eugène vit qu'il n'y avait pas moyen de reculer sans trop de mauvaise grâce et, se résignant, prit place avec les autres. Chapitre 3. Le souper fut long et bruyant. Ces messieurs, ayant commencé par remplir la chambre d'un nuage de fumée, buvaient d'autant pour se rafraîchir. Ces dames faisaient les frais de la conversation et égayaient la compagnie de propos plus ou moins piquants aux dépens de leurs amis et connaissances et d'aventures plus ou moins croyables tirées des arrière-boutiques. Si la matière manquait de vraisemblance, du moins n'était-elle pas stérile. Deux clercs d'avoués, à les en croire, avaient gagné 20 000 francs en jouant sur les fonds espagnols et les avaient mangés en 6 semaines avec 2 marchandes de gants. Le fils d'un des plus riches banquiers de Paris avait proposé à une célèbre lingère une loge à l'opéra et une maison de campagne qu'elle avait refusée, aimant mieux soigner ses parents et restait fidèle à un commis des deux magots, et certains personnages qu'on ne pouvait nommer et qui étaient forcés par son rang à s'envelopper du plus grand mystère, venaient incognito rendre visite à une brodeuse du passage du Pont-Neuf, laquelle avait été enlevée tout à coup par ordre supérieur, mise dans une chaise de poste à minuit, avec un portefeuille plein de billets de banque, et envoyé aux États-Unis, etc., etc. « Suffit, dit Marcel, nous connaissons cela. Zélia improvise, et quant à mademoiselle Mimi, ainsi s'appelait mademoiselle Pinson en petit comité, ses renseignements sont imparfaits. Vos clercs d'avoués n'ont gagné qu'une entorse en voltigeant sur les ruisseaux. Votre banquier a offert une orange et votre brodeuse est si peu aux États-Unis qu'elle est visible tous les jours, de midi à 4 heures, à l'hôpital de la Charité, où elle a pris un logement par suite de manque de comestibles. Eugène était assis auprès de Mademoiselle Pinson. Il crut remarquer à ce dernier mot, prononcé avec une indifférence complète, qu'elle pâlissait. Mais presque aussitôt, elle se leva, alluma une cigarette et s'écria d'un air délibéré. « Silence à votre tour, je demande la parole. Puisque le sieur Marcel ne croit pas aux fables, moi je vais vous raconter une histoire véritable. Et quorum pars magna fui. » « Vous parlez latin ?» dit Eugène. « Oui, comme vous voyez, » répondit Mademoiselle Pinson. « Cette sentence me vient de mon oncle, qui a servi sous le grand Napoléon, et qui n'a jamais manqué de la dire avant de réciter une bataille. Si vous ignorez ce que ces mots signifient, vous pouvez l'apprendre sans payer. Cela veut dire « Je vous en donne ma parole d'honneur. » Vous saurez donc que la semaine passée, je m'étais rendu avec deux de mes amis, Blanchette et Rougette, au théâtre de l'Odéon. Attendez que je coupe la galette, dit Marcel. Coupez, mais écoutez, reprit Mademoiselle Pinson. J'étais donc allé avec Blanchette et Roussette à l'opéra voir une tragédie. Roussette, comme vous le savez, vient de perdre sa grand-mère. Elle a hérité de 400 francs. Nous avions pris une baignoire, trois étudiants se trouvaient au parterre. Ces jeunes gens nous avisèrent et, sous prétexte que nous étions seuls, nous invitèrent à souper. Deux buts en blanc ? Demanda Marcel. En vérité, c'est très galant. Et vous avez refusé, je suppose. Non, monsieur, dit Mademoiselle Pinson. Nous acceptâmes, et à l'entracte, sans attendre la fin de la pièce, nous nous transportâmes chez Viot. Avec vos cavaliers ? Avec nos cavaliers. Le garçon commença bien entendu par nous dire qu'il n'y avait plus rien. Mais une pareille inconvenance n'était pas faite pour nous arrêter. Nous ordonnâmes qu'on alla par la ville chercher ce qui pouvait manquer. Rougette prit la plume et commanda un festin de noces. Des crevettes, une omelette au sucre, des beignets, des moules, des œufs à la neige, tout ce qu'il y a dans le monde des marmites. Nos jeunes inconnus, à dire vrai, faisaient légèrement la grimace. « Je le crois, parbleu !»« Viens, » dit Montmarcel. Oh, nous n'en tenons pas compte. La chose apportée, nous commençâmes à faire les jolies femmes. Nous ne trouvions rien de bon, tout nous dégoûtait. À peine un plat était-il entamé que nous le renvoyions pour en demander un autre. « Nos garçons, emportez cela, c'est pas tolérable. Où avez-vous pris des horreurs pareilles ?» Nos inconnus désirèrent manger, mais il ne leur fut pas loisible. Bref, nous soupâmes, comme disait Sancho, et la colère nous porta même à briser quelques ustensiles. Oh, belle conduite, et comment payer? Voilà précisément la question que les trois inconnus s'adressèrent. Par l'entretien qu'ils eurent à voix basse, l'un d'eux nous parut posséder 6 francs, l'autre infiniment moins, et le troisième avec sa montre, qu'il tira généreusement de sa poche. En cet état, les trois infortunés se présentèrent au comptoir, dans le but d'obtenir un délai quelconque. Et que pensez-vous qu'on leur répondit? Je pense, répliqua Marcel, que l'on vous a gardé en gage et qu'on les a conduits au violon. Non, c'est une erreur, dit Mademoiselle Pinson. Avant de monter dans le cabinet, Rougette avait pris ses mesures et tout était payé d'avance. Imaginez le coup de théâtre à cette réponse de Viot. « Messieurs, tout est payé. » Nos inconnus nous regardèrent comme jamais trois chiens n'ont regardé trois évêques, avec une stupéfaction piteuse mêlée d'un pur attendrissement. Nous, cependant, sans feindre d'y prendre garde, nous descendîmes et fîmes venir un fiacre. « Chère marquise, me dit Rougette, il faut reconduire ces messieurs chez eux. »« Volontiers, chère comtesse, répondis-je. » Nos pauvres amoureux ne savaient plus quoi dire. Je vous demande s'ils étaient penauds, ils se défendaient de notre politesse. Ils ne voulaient pas qu'on les reconduisît. Ils refusaient de dire leur adresse. Je le crois bien. Ils étaient convaincus qu'ils avaient affaire à des femmes du monde, et ils demeuraient rue du Chat qui pêche. Les deux étudiants amis de Marcel, qui jusque-là n'avaient guère fait que fumer et boire en silence, semblèrent peu satisfaits de cette histoire. Leurs visages se rembrunirent, peut-être en savaient-ils autant que Mademoiselle Pinson sur ce malencontreux souper, car ils jetèrent sur elle un regard inquiet, lorsque Marcel lui dit en riant « Nommez les masques, Mademoiselle Mimi, puisque c'est de la semaine dernière, il n'y a plus d'inconvénients. » « Ah, jamais, monsieur, dit la grisette. On peut berner un homme, mais lui faire tort dans sa carrière, jamais. »« Vous avez raison, dit Eugène, et vous agissez en cela plus sagement peut-être que vous ne pensez. De tous ces jeunes gens qui peuplent les écoles, il n'y en a presque pas un seul qui n'ait derrière lui quelque faute ou quelque folie. Et cependant, c'est de là que sortent tous les jours. » Ce qu'il y a en France de plus distingué, de plus respectable, des médecins, des magistrats. Oui, reprit Marcel, c'est la vérité. Il y a des pairs de France en herbe qui dînent chez Flicoteaux et qui n'ont pas toujours de quoi payer la carte. Mais, ajouta-t-il en clignant de l'œil, n'avez-vous pas revu vos inconnus? Mais pour qui nous prenez-vous? Répondit Mademoiselle Plinson d'un air sérieux et presque offensé. Connaissez-vous Blanchette et Rougette? Et supposez-vous que moi-même... c'est bon, dit Marcel, ne vous fâchez pas. Mais voilà, en somme, une belle équipée, trois écervelés qui n'avaient peut-être pas de quoi dîner le lendemain, et qui jettent l'argent par les fenêtres pour le plaisir de mystifier trois pauvres diables qui n'en peuvent mais. Pourquoi nous invite-t-il à souper? Répondit Mademoiselle Pinson. Chapitre 4. Avec la galette parut dans sa gloire l'unique bouteille de vin de champagne qui devait composer le dessert. Avec le vin, on parla chanson. Je vois, dit Marcel, je vois comme dit Cervantes, Zélia qui tousse, c'est signe qu'elle veut chanter. Mais si ces messieurs trouvent bon, c'est moi qu'on fête et qui, par conséquent, prie Mademoiselle Mimi, si elle n'est pas enrouée par son anecdote, de nous honorer d'un couplet. Eugène, continua-t-il, sois donc un peu galant, trinque avec ta voisine et demande-lui un couplet pour moi. Eugène rougit et obéit. De même que Mademoiselle Pinson n'avait pas dédaigné de le faire pour l'engager lui-même à rester, il s'inclina et lui dit timidement « Oui, oui, mademoiselle, nous vous en prions. » En même temps, il souleva son verre et toucha celui de la grisette. De ce léger choc sortit un son clair et argentin. Mademoiselle Pinson saisit cette note au vol et d'une voix pure et fraîche la continua longtemps en cadence. « Allons, dit-elle, j'y consens, puisque mon verre me donne le vlu, le la. Mais que voulez-vous que je vous chante? Je suis pas bégueule, je vous en préviens, mais je sais pas de couplet de corps de garde. Je ne m'en canaille pas la mémoire. » « Connu, dit Marcel, vous êtes une vertu. Allez votre train, les opinions sont libres. » « Eh bien, reprit Mademoiselle Pinson, je vais vous chanter à la bonne venue des couplets qu'on a faits sur moi. » Ah, attention, quel est l'auteur? Mes camarades du magasin, c'est de la poésie faite à l'aiguille. Aussi, je réclame l'indulgence. Y a-t-il un refrain, votre chanson? Ben certainement, la belle demande. En ce cas, dit Marcel, prenons nos couteaux et au refrain, tapons sur la table, mais tâchons d'aller en mesure. Zélia peut s'abstenir si elle veut. Mais pourquoi cela, malhonnête garçon? Demanda Zélia en colère. Pour cause, répondit Marcel, mais si vous désirez être de la partie, tenez, frappez avec un bouchon, cela aura moins d'inconvénients pour nos oreilles et pour nos blanches mains. Marcel avait rangé en haut les verres et les assiettes et s'était assis au milieu de la table, son couteau à la main. Les deux étudiants du souper de Rougette, un peu ragaillardis, ôtèrent le fourreau de leur pipe pour frapper avec le tuyau de bois. Eugène rêvait, Zélia boudait. Mademoiselle Pinson prit une assiette et fit signe qu'elle voulait la casser, ce à quoi Marcel répondit par un geste d'assentiment, en sorte que la chanteuse, ayant pris des morceaux pour s'en faire des castagnettes, commença ainsi les couplets que ses compagnons avaient composés après s'être excusé d'avance de ce qu'il pouvait contenir de trop flatteur pour elle. Mimi Pinson est une blonde que l'on connaît. Elle n'a qu'une robe au monde, landerirette et qu'un bonnet. Le grand Turc en a davantage, Dieu voulut de cette façon la rendre sage. On ne peut pas la mettre en gage, la robe de Mimi Pinson. Mimi Pinson porte une rose blanche au côté. Cette fleur dans son cœur éclose, landerirette, c'est la gaieté. Quand un bon souper la réveille et il fait sortir la chanson de la bouteille, parfois il penche sur l'oreille le bonnet de Mimi Pinson. Elle a les yeux et la main prestes, les carabins matins et soirs usent les manches de leur veste, landerirette à son comptoir. Quoique sans maltraiter personne, Mimi leur fait mieux la leçon qu'à la Sorbonne. Il ne faut pas qu'on la chiffonne, le rôle de Mimi Pinson. Mimi Pinson peut rester fille si Dieu le veut, c'est dans son droit. Elle aura toujours son aiguille. Landerirette au bout du doigt. Pour entreprendre sa conquête, ce n'est pas tout qu'un beau garçon. Faut être honnête. Car il n'est pas loin de sa tête le bonnet de Mimi Pinson. D'un gros bouquet de fleurs d'orange, si l'amour veut la couronner, elle a quelque chose en échange, landerirette, à lui donner. Ce n'est pas, on se l'imagine, un manteau sur un écusson ferré d'hermine. C'est l'étui d'une perle fine, la robe de Mimi Pinson. Mimi n'a pas l'âme vulgaire, mais son cœur est républicain. Aux 3 jours, elle a fait la guerre, landerirette, en casaquin. À défaut d'une hallebarde, on l'a vue, avec son poinçon, monter la garde. Heureux qui mettra sa cocarde au bonnet de Bibi Pinson. Les couteaux et les pipes, voire même les chaises, avaient fait leur tapage comme de raison à la fin de chaque couplet. Les verres dansaient sur la table et les bouteilles à moitié pleines se balançaient joyeusement en se donnant de petits coups d'épaule. « Et ce sont vos bonnes amies, dit Marcel, qui vous ont fait cette chanson-là? « Il y a un teinturier, c'est trop musqué. Parlez-moi de ces bons airs où on dit des choses. » Et il l'entonna d'une voix forte. Nanette n'avait pas encore 15 ans. « Assez, assez, dit Mademoiselle Pinson. Dansons plutôt, faisons un tour de valse. Y a-t-il ici un musicien quelconque? J'ai ce qu'il vous faut, répondit Marcel. J'ai une guitare, mais, continua-t-il en décrochant l'instrument, ma guitare n'a pas ce qu'il lui faut. Elle est chauve de 3 de ses cordes. Mais voilà un piano, dit Zélia. Marcel va nous faire danser. Marcel lança à sa maîtresse un regard aussi furieux que si elle l'eût accusé d'un crime. Il était vrai qu'il en savait assez pour jouer une contredanse, mais c'était pour lui, comme pour bien d'autres, une espèce de torture à laquelle il se soumettait peu volontiers. Zélia, en le trahissant, se vengeait du bouchon. « Êtes-vous folle ? » dit Marcel. « Vous savez bien que ce piano n'est là que pour la gloire, et qu'il n'y a que vous qui l'écorchiez. Dieu le sait, où avez-vous pris que je sache faire danser ? Je ne sais que la Marseillaise, que je joue d'un seul doigt. Ah, si vous vous adressiez à Eugène à la bonne heure, voilà un garçon qui s'y entend. Mais je ne veux pas l'ennuyer à ce point, je m'en garderai bien. » Il n'y a que vous ici, c'est indiscrète pour faire des choses pareilles, sans crier gare. Pour la troisième fois, Eugène rougit et s'apprêta à faire ce qu'on lui demandait d'une façon si politique et si détournée. Il se mit donc au piano et un quadrille s'organisa. Ce fut presque aussi long que le souper. Après la contredanse vint une valse, après la valse le galop, car on galope encore au quartier latin. Ces dames surtout étaient infatigables et faisaient des gambades et des éclats de rire à réveiller tout le voisinage. Bientôt Eugène, doublement fatigué par le bruit et par la veillée, tomba, tout en jouant machinalement, dans une sorte de demi-sommeil, comme les postillons qui dorment à cheval. Les danseuses passaient et repassaient devant lui comme des fantômes dans un rêve, et comme rien n'est plus aisément triste qu'un homme qui regarde rire les autres, la mélancolie à laquelle il était sujet ne tarda pas à s'emparer de lui. « Ah, triste joie !» pensait-il. « Misérable plaisir, instant qu'on croit voler au malheur !» Et qui sait laquelle de ces cinq personnes qui saute si gaiement devant moi, est sûr, comme disait Marcel, d'avoir de quoi dîner demain. Comme il faisait cette réflexion, Mademoiselle Pinson passa près de lui. Il crut la voir, tout en galopant, prendre à la dérobée un morceau de galette resté sur la table, et le mettre discrètement dans sa poche. Chapitre 5. Le jour commençait à paraître quand la compagnie se sépara. Eugène, avant de rentrer chez lui, marcha quelque temps dans les rues pour respirer l'air frais du matin. Suivant toujours ses tristes pensées, il se répétait tout bas, malgré lui, la chanson de la grisette. « Elle n'a qu'une robe au monde et qu'un bonnet. »« Est-ce possible ?» se demandait-il. « La misère peut-elle être poussée à ce point ?» Se montrer si franchement et se railler d'elle-même. Peut-on rire de ce qu'on manque de pain ? Le morceau de galette emporté n'était pas un indice douteux. Eugène ne pouvait s'empêcher d'en sourire et en même temps d'être ému de pitié. Cependant, pensait-il encore, elle a pris de la galette et non du pain. Il se peut que ce soit par gourmandise, qui sait ? C'est peut-être l'enfant d'une voisine à qui elle veut rapporter un gâteau, ou peut-être une portière bavarde qui raconterait qu'elle a passé la nuit dehors, un cerbère qu'il faut apaiser. Ne regardant pas où il allait, Eugène s'était engagé par hasard dans ce dédale de petites rues qui sont derrière le carrefour Bussy et dans lesquelles une voiture passe à peine. Au moment où il allait revenir sur ses pas, une femme, enveloppée dans un mauvais peignoir, la tête nue, les cheveux en désordre, pâle et défaite, sortit d'une vieille maison. Elle semblait tellement faible qu'elle pouvait à peine marcher. Ses genoux fléchissaient, elle s'appuyait sur les murailles et paraissait vouloir se diriger vers une porte voisine où se trouvait une boîte aux lettres pour y jeter un billet qu'elle tenait à la main. Surprise et effrayée, Eugène s'approcha d'elle et lui demanda où elle allait, ce qu'elle cherchait et s'il pouvait l'aider. En même temps, il étendit le bras pour la soutenir car elle était près de tomber sur une borne. Mais sans lui répondre, elle recula avec une sorte de crainte et de fierté. Elle posa son billet sur la borne, montra du doigt la boîte et, paraissant rassembler toutes ses forces, Là, dit-elle seulement. Puis continuant à se traîner au mur, elle regagna sa maison. Eugène essaya en vain de l'obliger à prendre son bras et de renouveler ses questions. Elle rentra lentement dans l'allée sombre et étroite dont elle était sortie. Eugène avait ramassé la lettre. Il fit d'abord quelques pas pour la mettre à la poste, mais il s'arrêta bientôt. Cette étrange rencontre l'avait si fort troublé, et il se sentait frappé d'une sorte d'horreur mêlée d'une compassion si vive, que, avant de prendre le temps de la réflexion, il rompit le cachet presque involontairement. Il lui semblait odieux et impossible de ne pas chercher n'importe quel moyen à pénétrer un tel mystère. Évidemment, cette femme était mourante. Était-ce de maladie ou de faim? Ce devait être en tout cas la misère. Et alors Eugène ouvrit la lettre. Elle portait sur l'adresse à Monsieur le Baron de 3 étoiles et renfermait ce qui suit. Lisez cette lettre, monsieur, et par pitié, ne rejetez pas ma prière. Vous pouvez me sauver, et vous seul le pouvez. Croyez ce que je vous dis, sauvez-moi, et vous aurez fait une bonne action qui vous portera bonheur. Je viens de faire une cruelle maladie qui m'a ôté le peu de force et de courage que j'avais. Le mois d'août, je rentre en magasin. Mes effets sont retenus dans mon dernier logement, et j'ai presque la certitude qu'avant samedi, je me trouverai tout à fait sans asile. J'ai si peur de mourir de faim que ce matin j'avais pris la résolution de me jeter à l'eau, car je n'ai rien pris encore depuis près de 24 heures. Lorsque je me suis souvenu de vous, un peu d'espoir m'est venu au cœur. N'est-ce pas que je ne me suis pas trompé, monsieur? Je vous en supplie à genoux. Si peu que vous ferez pour moi me laissera respirer encore quelques jours. Moi, j'ai peur de mourir et puis je n'ai que 23 ans. Je viendrai peut-être à bout avec un peu d'aide d'atteindre le premier du mois. Si je savais les mots pour exciter votre pitié, je vous les dirais, mais rien ne me vient à l'idée. Je ne puis que pleurer de mon impuissance. Car, je le crains bien, vous ferez de ma lettre comme on fait quand on en reçoit trop souvent de pareilles. Vous la déchirerez sans penser qu'une pauvre femme est là, qui attend les heures et les minutes avec l'espoir que vous aurez pensé qu'il aurait pas trop cruel de la laisser ainsi dans l'incertitude. Ce n'est pas l'idée de donner un louis qui est si peu de chose pour vous, qui vous retiendra, j'en suis persuadé. Aussi, il me semble que rien ne vous est plus facile que de plier votre aumône dans un papier et de mettre sur l'adresse à Mademoiselle Bertin, rue de l'Éperon. J'ai changé de nom depuis que je travaille dans les magasins, car le mien est celui de ma mère. En sortant de chez vous, donnez cela à un commissionnaire. J'attendrai mercredi et jeudi et je prierai avec ferveur pour que Dieu vous rende humain. Il me vient à l'idée que vous ne croyez pas à tant de misère, mais si vous me voyez, vous seriez convaincu. Rougette. Si Eugène avait d'abord été touché en lisant ces lignes, son étonnement redoubla, on le pense bien, lorsqu'il vit la signature. Ainsi, c'était cette même fille qui avait follement dépensé son argent en partie de plaisir et imaginé ce souper ridicule raconté par Mademoiselle Pinson. C'était elle que le malheur réduisait à cette souffrance et à une semblable prière. Tant d'imprévoyance et de folie semblaient à Eugène un rêve incroyable. Mais point de doute, la signature était là. Et Mademoiselle Pinson, dans le courant de la soirée, avait également prononcé le nom de notre guerre de son amie Rougette, devenue Mademoiselle Bertin. Mais comment se trouvait-elle tout à coup abandonnée, sans secours, sans pain, presque sans asile? Que faisaient ses amis de la veille pendant qu'elle expirait peut-être dans quelque grenier de cette maison? Et qu'était-ce que cette maison même où l'on pouvait mourir ainsi? Ce n'était pas le moment de faire des conjectures. Le plus pressé était de venir au secours de la faim. Eugène commença par entrer dans la boutique d'un restaurateur qui venait de s'ouvrir et par acheter ce qu'il put y trouver. Cela fait, il s'achemina, suivi du garçon, vers le logis de Rougette. Mais il éprouvait de l'embarras à se présenter brusquement ainsi. L'air de fierté qu'il avait trouvé à cette pauvre fille, il faisait craindre, sinon un refus, du moins un mouvement de vanité blessée. Et comment lui avouer qu'il avait lu sa lettre? Lorsqu'il fut arrivé devant la porte, « Connaissez-vous, dit-il au garçon, une jeune personne qui demeure dans cette maison et qui s'appelle Mademoiselle Bertin ?»« Oh que oui, monsieur, répondit le garçon. C'est nous qui portons habituellement chez elle. Mais si monsieur y va, c'est pas le jour. Actuellement, elle est à la campagne. » « Qui vous l'a dit ?» demanda Eugène. « Ben, dit monsieur, c'est la portière. Mademoiselle Rougette aime à bien dîner, mais elle n'aime pas beaucoup à payer. Elle a plutôt fait de commander des poulets rôtis et des homards que rien du tout. Mais pour voir son argent, ce n'est pas une fois qu'il faut y retourner. Aussi nous savons dans le quartier quand elle y est ou quand elle n'y est pas. Elle est revenue, reprit Eugène. Montez chez elle, laissez-lui ce que vous portez. Et si elle vous doit quelque chose, ne lui demandez rien aujourd'hui. Cela me regarde, je reviendrai. Si elle veut savoir qui lui envoie ceci, vous lui répondrez que c'est le baron de... Sur ces mots, Eugène s'éloigna. Chemin faisant, il rajusta comme il put le cachet de la lettre et la mit à la poste. Après tout, pensa-t-il, Rougette ne refusera pas. Et si elle trouve que la réponse à son billet a été un peu prompte, elle s'en expliquera avec son baron.
Chapitre 6. Les étudiants, non plus que les grisettes, ne sont pas riches tous les jours. Eugène comprenait très bien que, pour donner un air de vraisemblance à la petite fable que le garçon devait faire, il eût fallu joindre à son envoi le louis que demandait Rougette. Mais là était la difficulté. Les louis ne sont pas précisément la monnaie courante de la rue Saint-Jacques. D'une autre part, Eugène venait de s'engager à payer le restaurateur, et par malheur, son tiroir en ce moment n'était guère mieux garni que sa poche. C'est pourquoi il prit sans différer le chemin de la place du Panthéon. En ce temps-là demeurait encore sur cette place ce fameux barbier qui a fait banqueroute et s'est ruiné en ruinant les autres. Là, dans l'arrière-boutique où se faisait en secret la grande et la petite usure, venait tous les jours l'étudiant pauvre et sans souci, amoureux peut-être, emprunté à énorme intérêt et quelques pièces dépensées gaiement le soir et chèrement payées le lendemain. Là entrait furtivement la grisette, la tête basse, le regard honteux, venant louer pour une partie de campagne un chapeau fané, un châle retin, une chemise achetée au Mont-de-Piété. Là, des jeunes gens de bonne maison, ayant besoin de 25 louis, souscrivait pour 2 ou 3 000 francs de lettres de change.
Des mineurs mangeaient leur bien en herbe. Des étourdis ruinaient leur famille et souvent perdaient ton avenir. Depuis la courtisane titrée, à qui un bracelet tourne la tête, jusqu'au cuistre nécessiteux qui convoite un bouquin ou un plat de lentilles, tout venait là comme aux sources du pactole, et l'usurier barbier, fier de sa clientèle et de ses exploits jusqu'à s'en vanter, entretenait la prison de Clichy en attendant qu'il y allât lui-même. Telle était la triste ressource à laquelle Eugène, bien qu'avec répugnance, allait avoir recours pour obliger Rougette, ou pour être du moins en mesure de le faire. Et il ne semblait pas prouver que la demande adressée au baron produisit l'effet désirable. C'était de la part d'un étudiant beaucoup de charité, à vrai dire, que de s'engager ainsi pour une inconnue. Mais Eugène croyait en Dieu, toute bonne action lui semblait nécessaire. Le premier visage qu'il aperçut en entrant chez le barbier fut celui de son ami Marcel, assis devant une toilette, une serviette au cou, et feignant de se faire coiffer. Le pauvre garçon venait peut-être chercher de quoi payer son souper de la veille. Il semblait fort préoccupé et fronçait les sourcils d'un air peu satisfait, tandis que le coiffeur, feignant de son côté de lui passer dans les cheveux un fer parfaitement froid, lui parlait à demi-voix dans son accent gascon. Devant une autre toilette, dans un petit cabinet, se tenait assis également affublé d'une serviette, un étranger fort inquiet, regardant sans cesse de côté et d'autre, et par la porte entr'ouverte de l'arrière-boutique, on apercevait, dans une vieille psyché, la silhouette passablement maigre d'une jeune fille qui, aidée de la femme du coiffeur, essayait une robe à carreaux écossais. « Mais que viens-tu faire ici à cette heure ?» s'écria Marcel, dont la figure reprit l'expression de sa bonne humeur habituelle dès qu'il reconnut son ami. Eugène s'assit près de la toilette et expliqua en peu de mots la rencontre qu'il avait faite et le dessein qui l'amenait. Mais ma foi, dit Marcel, mais tu es bien candide, mais de quoi te mêles-tu puisqu'il y a un baron? Tu as vu une jeune fille intéressante qui éprouvait le besoin de prendre quelque nourriture? Tu lui as payé un poulet froid, c'est digne de toi, il n'y a rien à dire. Tu n'exiges d'elle aucune plaie, c'est héroïque. Mais aller plus loin, c'est de la chevalerie. Engager sa montre ou sa signature pour une lingère que protège un baron et que l'on n'a pas l'honneur de fréquenter, cela ne s'est pratiquement de mémoire humaine que dans la bibliothèque bleue. Ris de moi si tu veux, répondit Eugène. Je sais qu'il y a dans ce monde beaucoup plus de malheureux que je n'en puis soulager. Ce que je ne connais pas, je les plains. Mais si j'en vois un, il faut que je l'aide. Il m'est impossible, quoi que je fasse, de rester indifférent devant la souffrance. Ma charité ne va pas jusqu'à chercher le pauvre, je ne suis pas assez riche pour ça. Mais quand je les trouve, je fais l'aumône. En ce cas, reprit Marcel, tu as fort à faire. Il n'en manque pas dans ce pays-ci. Mais qu'importe, dit Eugène, encore ému du spectacle dont il venait d'être témoin. Faut-il mieux laisser pourrir les gens et passer son chemin? Cette malheureuse est une étourdie, une folle, tout ce que tu voudras. Elle ne mérite peut-être pas la compassion qu'elle fait naître. Mais cette compassion, moi, je la sens. Faut-il mieux agir comme ses bonnes amies, qui déjà ne semblent pas plus soucier d'elle que s'il n'était plus au monde, et qui l'aidait hier à se ruiner? À qui peut-elle avoir recours? À un étranger qui allumera un cigare avec sa lettre, ou à Mademoiselle Pinson, je suppose, qui soupe en ville et danse de tout son cœur pendant que sa compagne meurt de faim? Non, je t'avoue, mon cher Marcel, que tout cela, bien sincèrement, me fait horreur. Cette petite évaporée d'hier soir, avec sa chanson et ses colibets, riant et babillant chez toi, au moment même où l'autre, l'héroïne de son conte, expire dans un grenier, me soulève le cœur. Vivre ainsi en amie, presque en sœur,
pendant des jours et des semaines, courir les théâtres, les bals, les cafés, et ne pas savoir le lendemain si l'une est morte et l'autre en vie, c'est pire que la différence des égoïstes. C'est l'insensibilité de la brute. Ta demoiselle Pinson est un monstre, et tes grisettes que tu vantes, ces mœurs sans vergogne, ces amitiés sans âme, je ne sais rien de si méprisable. Le barbier, qui pendant ce discours avait écouté en silence et continuait de promener son fer froid sur la tête de Marcel, sourit d'un air malin lorsque Gêne se tut. Tour à tour bavard comme une pie, ou plutôt comme un perruquier qu'il était, lorsqu'il s'agissait de méchants propos, et taciturne et laconique comme un spartiate dès que les affaires étaient en jeu, il avait adopté la prudente habitude de laisser toujours d'abord parler ses pratiques avant de mêler son mot à la conversation. L'indignation qu'exprimait Eugène en termes si violents lui fit toutefois rompre le silence. « Vous êtes sévère, monsieur, » dit-il en riant et en gasconnant. « Moi, j'ai l'honneur de coiffer mademoiselle Mimi et je crois que c'est une fort excellente personne. » « Oui, dit Eugène, excellente, en effet, s'il est question de boire et de fumer. »« Possible, reprit le barbier, je ne dis pas non. Les jeunes personnes, ça rit, ça chante, ça fume, mais il y en a qui auront du cœur. »« Voulez-vous en venir, père Cadédis ?» demanda Marcel. « Pas tant de diplomatie, expliquez-vous tout net. » « Je veux dire, répliqua le barbier en montrant l'arrière-boutique, qu'il y a là pendu à un clou une petite robe de soie noire que ces messieurs connaissent sans doute s'ils connaissent la propriétaire, car elle ne possède pas une garde-robe très compliquée. Mademoiselle Mimi m'a envoyé cette robe ce matin au petit jour, et je présume que si elle n'est pas venue au secours de la petite Rougette, c'est qu'elle-même ne roule pas sur l'or. » Voilà qui est curieux, dit Marcel, se levant et entrant dans l'arrière-boutique sans égard pour la pauvre femme aux carreaux écossais. La chanson de Mimi en a donc menti, puisqu'elle met sa robe en gage? Mais avec quoi diable ferait-elle ses visites à présent? Elle ne va donc pas dans le monde aujourd'hui? Eugène avait suivi son ami. Le barbier ne les trompait pas dans un coin poudreux où, au mieux lieu, d'autres hardes de toute espèce étaient humblement et tristement suspendues l'unique robe de mademoiselle Pinson. Oh, mais c'est bien cela, dit Marcel. Je reconnais ce vêtement pour l'avoir vu tout neuf il y a 18 mois. C'est la robe de chambre, l'amazone et l'uniforme de parade de Mimi. Il doit y avoir à la manche gauche une petite tache grosse comme une pièce de 5 sous, causée par le vin de champagne. Et combien avez-vous prêté là-dessus, père Calédis? Car je suppose que cette robe n'est pas vendue et qu'elle ne se trouve dans ce boudoir qu'en qualité de nantissement. J'ai prêté 4 francs, répondit le barbier, et je vous assure, monsieur, que c'est pure charité. À tout autre, je n'aurais pas avancé plus de 40 sous, car la pièce est diablement mûre. On y voit à travers, c'est une lanterne magique. Mais je sais que mademoiselle Mimi me paiera, elle est bonne pour 4 francs. Pauvre Mimi, reprit Marcel. Je gagerai tout de suite mon bonnet qu'elle n'a emprunté cette petite somme que pour l'envoyer à Rougette. Wow, pour payer quelques dettes criardes, dit Eugène. Non, dit Marcel, je connais Mimi. Je la crois incapable de se dépouiller pour un créancier. Possible encore, dit le barbier. J'ai connu mademoiselle Mimi dans une position meilleure que celle où elle se trouve actuellement. Elle avait alors un grand nombre de dettes. On se présentait journellement chez elle pour saisir ce qu'elle possédait, et on avait fini, en effet, par lui prendre tous ses meubles, excepté son lit, car ces messieurs savent sans doute qu'on ne prend pas le lit d'un débiteur. Or, mademoiselle Mimi
avaient dans ce temps-là quatre robes fort convenables. Elle les mettait toutes les quatre, l'une sur l'autre, et le couchait avec pour qu'on ne les saisît pas. C'est pourquoi je serais surpris si, n'ayant plus qu'une seule robe aujourd'hui, elle l'engageait pour payer quelqu'un. « Pauvre Mimi !» répéta Marcel. « Mais en vérité, comment s'arrange-t-elle ? Elle a donc trompé ses amis ? Elle possède donc un vêtement inconnu ? Peut-être se trouve-t-elle malade d'avoir trop mangé de galettes, et en effet, si elle est au lit, elle n'a que faire de s'habiller ?» « N'importe, père Kadedi, cette robe me fait peine, avec ses manches pendantes qui ont l'air de demander grâce. Allez, tenez, retranchez-moi 4 francs sur les 35 livres que vous venez de m'avancer, et mettez-moi cette robe dans une serviette, que je la rapporte à cet enfant. » « Eh bien, Eugène, continua-t-il, que dit à cela ta charité chrétienne ?»« Que tu as raison, répondit Eugène, de parler et d'agir comme tu fais, mais que je n'ai peut-être pas tort. J'en fais le pari si tu veux. » Soit, dit Marcel, parions un cigare comme les membres du Jockey Club. Aussi bien, tu n'as plus que faire ici. J'ai 31 francs, nous sommes riches. Allons de ce pas chez Mademoiselle Pinson. Je suis curieux de la voir. Il mit la robe sous son bras, et tous deux sortirent de la boutique. Chapitre 7. « Mademoiselle est allée à la messe, » répondit la portière aux deux étudiants lorsqu'ils furent arrivés chez Mademoiselle Pinson. « À la messe !» dit Eugène, surpris. « À la messe !» répéta Marcel. « Mais c'est impossible, elle n'est pas sortie. » « Laissez-nous entrer, nous sommes de vieux amis. »« Je vous assure, monsieur, » répondit la portière, « qu'elle est sortie pour aller à la messe il y a environ 3 quarts d'heure. »« Et à quelle église est-elle allée ?»« À Saint-Sulpice, comme de coutume. Elle n'y manque pas un matin. »« Oui, oui, c'est qu'elle prie le bon Dieu, mais cela me semblait bizarre qu'elle soit dehors aujourd'hui. » « La voici qui rentre, monsieur. Elle tourne la rue. Vous la voyez vous-même ?» Mademoiselle Pinson, sortant de l'église, revenait chez elle en effet. Marcel ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il courut à elle, impatient de voir de près sa toilette. Elle avait en guise de robe un jupon d'indienne foncé, à demi caché sous un rideau de serge verte, dont elle s'était fait tant bien que mal un châle. De cet accoutrement singulier, mais qui du reste n'attirait pas les regards à cause de sa couleur sombre, sortait sa tête gracieuse coiffée de son bonnet blanc et ses petits pieds chaussés de brodequins. Elle s'était enveloppée dans son rideau avec tant d'art et de précaution qu'il ressemblait vraiment à un vieux châle et qu'on ne voyait pas à la bordure. En un mot, elle trouvait moyen de plaire encore dans cette friperie et de prouver une fois de plus sur terre qu'une jolie femme est toujours jolie. « Comment me trouvez-vous » dit-elle aux deux jeunes gens en écartant un peu son rideau et en faisant voir sa fine taille serrée dans son corset. « C'est un déshabillé du matin que Palmyre vient de m'apporter. » « Vous êtes charmante, » dit Marcel. « Mais enfin, j'aurais jamais cru qu'on puisse avoir si bonne mine avec le châle d'une fenêtre. »« En vérité, » reprit Mademoiselle Pinson, « j'ai pourtant l'air un peu paquet. »« Paquet de roses, » répondit Marcel. « J'ai presque regret maintenant de vous avoir apporté votre robe. »« Ma robe ? Mais où l'avez-vous trouvée ? » Où elle était, apparemment. Et vous l'avez tirée de l'esclavage? Eh mon Dieu, oui, j'ai payé sa rançon. M'en voulez-vous de cette audace? Non, non, pas, à charge de revanche. Je suis bien aise de revoir ma robe. Car à vous dire vrai, voilà déjà longtemps que nous vivons toutes les deux ensemble, et je m'y suis attaché insensiblement. En parlant ainsi, Mademoiselle Pinson montait lestement les 5 étages qui conduisaient à sa chambrette, où les deux amis entrèrent avec elle. Je ne puis pourtant, reprit Marcel, vous rendre cette robe qu'à une condition. Oh, fi donc, dit la grisette, quelle sottise des conditions, j'en veux pas. Mais j'ai fait un pari, dit Marcel. Il faut que vous nous disiez franchement pourquoi cette robe était en gage. Laissez-moi donc d'abord la remettre, répondit Mademoiselle Pinson. Je vous dirai ensuite mon pourquoi. Mais je vous préviens que si vous ne voulez pas faire antichambre dans mon armoire ou sur la gouttière, il faut, pendant que je vais m'habiller, que vous vous aliez la face comme Agamemnon. Qu'à cela ne tienne, dit Marcel, nous sommes plus honnêtes qu'on ne pense, et je ne me hasarderai pas même un œil. Attendez, reprit Mademoiselle Pinson, je suis pleine de confiance, mais la sagesse des nations nous dit que deux précautions valent mieux qu'une. En même temps, elle se débarrassa de son rideau et l'étendit délicatement sur la tête des deux amis de manière à les rendre complètement aveugles. Ne bougez pas, leur dit-elle, c'est l'affaire d'un instant. Prenez garde à vous, dit Marcel. S'il y a un trou au rideau, je réponds de rien. Vous ne voulez pas vous contenter de notre parole. Par conséquent, elle est dégagée. Chapitre 8. Marcel avait gagné son pari. Les 4 francs et le morceau de galette de Mademoiselle Pinson étaient sur la table de Rougette avec les débris du poulet de Gênes. La pauvre malade allait un peu mieux, mais elle gardait encore le lit. Et quelle que fût sa reconnaissance envers son bienfaiteur inconnu, elle fit dire à ces messieurs, par son ami, qu'elle les priait de l'excuser et qu'elle n'était pas en état de les recevoir. Que je la reconnais bien là, dit Marcel, elle mourrait sur la paille dans sa mansarde, qu'elle ferait encore la duchesse vis-à-vis de son pot-à-eau. Les deux amis, bien qu'à regret, furent donc obligés de s'en retourner chez eux, comme ils étaient venus, non sans rire entre eux de cette fierté, de cette discrétion si étrangement nichée dans une mansarde. Après avoir été à l'école de médecine suivre les leçons du jour, ils dînèrent ensemble et, le soir venu, ils firent un tour de promenade au boulevard italien. Là, tout en fumant le cigare qu'il avait gagné le matin, avec tout cela, disait Marcel, n'es-tu pas forcé de convenir que j'ai raison d'aimer au fond et même d'estimer ces pauvres créatures? Considérons sainement les choses sous un point de vue philosophique. Cette petite Mimi que tu as tant calomniée, ne fait-elle pas, en se dépouillant de sa robe, une œuvre plus louable, plus méritoire, j'ose même dire plus chrétienne que le bon roi Robert, en laissant un pauvre couper la frange de son manteau? Le bon roi Robert, d'une part, avait évidemment quantité de manteaux, et d'un autre côté, il était à table, dit l'histoire, lorsqu'un mendiant s'approcha de lui en se traînant à 4 pattes et coupa avec les ciseaux la frange d'or de l'habit du bon roi. Madame la reine trouva la chose mauvaise, et le digne monarque, il est vrai, pardonna généreusement au coupeur de franges. Mais peut-être avait-il bien dîné. Vois quelle distance entre lui et Mimi. Mimi, quand elle a appris l'infortune de Rougette, assurément était à jeun. Sois convaincu que le morceau de galette qu'elle avait emporté de chez moi était destiné par avance à composer son propre repas. Or, que fait-elle? Au lieu de déjeuner, elle va à la messe, et en ceci, elle se montre encore au moins l'égale du roi Robert, qui était fort pieux, j'en conviens, mais qui perdait son temps à chanter au lutrin, pendant que les Normands faisaient le diable à 4. Le roi Robert abandonne sa frange, et en somme, Le manteau lui reste. Mimi envoie sa robe tout entière au père Cadédis. Action incomparable en ce que Mimi est femme, jolie, jeune, coquette et pauvre. Et note bien que cette robe lui est nécessaire pour qu'elle puisse aller, comme de coutume, à son magasin, gagner le pain de sa journée. Non seulement donc elle se prive du morceau de galette qu'elle allait avaler, mais elle se met volontairement dans le cas de ne pas dîner. Observons en outre que le père Cadédis est fort éloigné d'être un mendiant et de se traîner à quatre pattes sous la table. Le roi Robert, renonçant à sa frange, ne fait pas un grand sacrifice puisqu'il la trouve toute coupée d'avance. Et c'est à savoir si cette frange était coupée de travers ou non et en état d'être recousue. Tandis que Mimi, de son propre mouvement, bien loin d'attendre qu'on lui vole sa robe, arrache elle-même de dessus son pauvre corps ce vêtement plus précieux, plus utile que le clinquant de tous les passementiers de Paris. Elle sort vêtue d'un rideau, mais sois sûr qu'elle n'irait pas ainsi dans un autre lieu que l'église. Elle se verrait plutôt couper un bras que de se laisser voir ainsi fagoter au Luxembourg ou aux Tuileries. Mais elle ose se montrer à Dieu, parce qu'il est l'heure où l'on le prie tous les jours. Crois-moi, Eugène, dans ce seul fait de traverser avec son rideau la place Saint-Michel, la rue de Tournon et la rue du Petit Lion, où elle connaît tout le monde, il y a plus de courage, vois-tu, d'humilité et de religion véritable que dans toutes les hymnes du bon roi Robert, dont tout le monde parle pourtant, depuis le grand Bossuet jusqu'au Platanctil, tandis que Mimi mourra inconnue dans son cinquième étage, entre un pot de fleurs et un ourlet. Tant mieux pour elle, dit Eugène. Si je voulais maintenant, dit Marcel, continuer à comparer, je pourrais te faire un parallèle entre Mucius Sévola et Rougette. Penses-tu en effet qu'il soit plus difficile à un Romain du temps de Tarquin de tenir son bras pendant 5 minutes au-dessus d'un réchaud allumé, qu'à une grisette contemporaine de rester 24 heures sans manger? Ni l'un ni l'autre n'ont crié, mais examine par quel motif. Mucius Sévola est au milieu d'un camp en présence d'un roi étrusque qu'il a voulu assassiner. Il a manqué son coup d'une manière pitoyable. Il est entre les mains des gendarmes. Qu'imagine-t-il? Une bravade. Pour qu'on l'admire avant qu'on le pende, il se roussit le poing sur un tison, car rien ne prouve que le brasier fût bien chaud ni que le poing soit tombé en cendres. Là-dessus, le digne Porsenna, stupéfait de sa fanfaronnade, lui pardonne et le renvoie chez lui. Il est à parier que le dit Porsenna, capable d'un tel pardon, avait une bonne figure, et que Scaevola se doutait que, en sacrifiant son bras, il sauvait sa tête. Rougette, au contraire, endure patiemment la plus horrible et le plus lent des supplices, celui de la faim. Personne ne la regarde. Elle est seule au fond d'un grenier. Et elle n'a là pour l'admirer ni Porsenna, c'est-à-dire le baron, ni les Romains, c'est-à-dire les voisins, ni les Étrusques, c'est-à-dire ses créanciers, ni même le brasier, car son poêle est éteint. Alors pourquoi souffre-t-elle sans se plaindre? Par vanité d'abord, cela est certain, mais Mucius est dans le même cas. Par grandeur d'âme ensuite, et ici est sa gloire, car si elle reste muette derrière son verrou, c'est précisément pour que ses amis ne sachent pas qu'elle se meurt, pour qu'on n'ait pas pitié de son courage, pour que sa camarade de pinson, qu'elle sait bonne et toute dévouée, ne soit pas obligée, comme elle l'a fait, de lui donner sa robe et sa galette. Mucius, à la place de Rougette, Il fait semblant de mourir en silence, mais c'eût été dans un carrefour ou à la porte d'un flicoteau. Son taciturne et sublime orgueil eût été une manière délicate de demander à l'assistance un verre de vin et un croûton. Bougette, il est vrai, a demandé un louis au baron, que je persiste à comparer à Porsenna. Mais ne vois-tu pas que le baron doit évidemment être redevable à Rougette de quelques obligations personnelles? Cela saute aux yeux, du moins clairvoyant. Comme tu l'as d'ailleurs sagement remarqué, il se peut que le baron soit à la campagne, et dès lors Rougette est perdue. Oh, il ne croit pas pouvoir me répondre ici par cette vaine objection qu'on oppose à toutes les belles actions des femmes, à savoir qu'elles ne savent ce qu'elles font et qu'elles courent au danger comme les chats sur les gouttières. Rougette sait ce qu'est la mort. Elle l'a vue de près au pont d'Iéna, car elle s'est déjà jetée à l'eau une fois, et je lui ai demandé si elle avait souffert. Elle m'a dit que non, qu'elle n'avait rien senti, excepté au moment où on l'avait repêchée, parce que les bateliers la tiraient par les jambes et qui lui avaient, à ce qu'elle disait, raclé la tête sur le bord du bateau. « Assez, dit Eugène, fais-moi grâce de tes affreuses plaisanteries. Réponds-moi sérieusement, crois-tu que de si horribles épreuves, tant de fois répétées, toujours menaçantes, puissent enfin porter quelques fruits? Ces pauvres filles, livrées à elles-mêmes, sans appui, sans conseil, ont-elles assez de bon sens pour avoir de l'expérience? Y a-t-il un démon attaché à elles qui les voue à tout jamais au malheur et à la folie? Ou malgré tant d'extravagances, peuvent-elles revenir au bien? En voilà une qui prie Dieu, dis-tu. Elle va à l'église, elle remplit ses devoirs, elle vit honnêtement de son travail. Ses compagnes paraissent l'estimer. Et vous autres, mauvais sujets, vous ne la traitez pas vous-même avec votre légèreté habituelle. Et en voilà une autre qui passe sans cesse de l'étourderie à la misère, de la prodigalité aux horreurs de la faim. Certes, elle doit se rappeler longtemps les leçons cruelles qu'elle reçoit. Crois-tu qu'avec de sages avis, une conduite réglée, un peu d'aide, on puisse faire de telles femmes des êtres raisonnables? S'il en est ainsi, dis-le-moi, une occasion s'offre à nous. Allons de ce pas chez la pauvre Rougette. Elle est sans doute encore bien souffrante et une amie veille à son chevet. Ne me décourage pas, laisse-moi agir. Je veux essayer de les ramener dans la bonne route, de leur parler un langage sincère. Je ne veux leur faire ni sermon ni reproche. Je veux m'approcher de ce lit, leur prendre la main et leur dire. En ce moment, les deux amis passaient devant le café Tortoise. La silhouette de deux jeunes femmes qui prenaient les glaces près d'une fenêtre se dessinait à la clarté des lustres. L'une d'elles agita son mouchoir et l'autre partit d'un éclat de rire. « Parbleu !» dit Marcel. Oh, « Si tu veux leur parler, nous n'avons pas affaire à d'aller si loin, car les voilà. Dieu me pardonne. » Je reconnais Mimi à sa robe et Rougette à son panache blanc, toujours sur le chemin de la friandise. Il paraît que monsieur le baron a bien fait les choses. Et une pareille folie, dit Eugène, ne t'épouvante pas? Si fait, dit Marcel, mais je t'en prie, quand tu diras de mal des grisettes, fais une exception pour la petite Pinson. Elle nous a conté une histoire à souper. Elle a engagé sa robe pour 4 francs. Elle s'est fait un châle avec un rideau. Et qui dit ce qu'il sait, qui donne ce qu'il a, qui fait ce qu'il peut, n'est pas obligé à davantage. Fin de Mimi Pinson.
Ce conte est entièrement de pure invention.